c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, c'est du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'image de l'agriculture dans deux territoires bretons, dont la baie de Douarnenez.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans cette 10e saison de LEM, comme l'émission, le magazine, qui décortique et qui scrute le Finistère pour vos oreilles. On laboure souvent les sujets agricoles, on reçoit régulièrement sur cette antenne le CIVAM, le réseau paysan avec des agriculteuristes qui portent, disons, certaines valeurs, qui tentent de produire avec le moins d'impact possible sur le reste du vivant. On sait que toute l'agriculture n'y est pas représentée. C'est un domaine complexe et pourtant c'est un secteur crucial puisque c'est l'agriculture qui nous nourrit, je vous le rappelle. Alors parfois il est utile que les scientifiques se penchent sur l'image, sur la vision qu'on peut avoir localement de cette agriculture, localement en l'occurrence à l'échelle d'un bassin versant. Notre invité a étudié deux bassins versants en profondeur, le grand bassin du Blavet, c'est dans le Morbihan plutôt, et plus proche de nous, celui de la baie de Douarnenez. C'était un projet de l'université de Rennes 2, répondant au doux nom de PhilAV comme fabrique de l'info locale sur les algues vertes. C'est Audeline Briand qui en était l'une des chercheuses en tant que sociologue. Bonjour.
Bonjour.
Alors un mot du contexte de ce projet assez vaste en fait.
Oui, c'est un projet qui regroupe donc trois recherches différentes. Donc la mienne qui s'ancre sur les relations entre habitants et agriculture, donc beaucoup plus largement du coup que la seule thématique des algues vertes, je le précise dès maintenant. Et deux autres projets qui travaillent toujours d'ailleurs sur la façon dont les algues vertes sont mises en culture au sens culturel du terme, notamment d'un baie de Douarnenez. Et un autre projet qui regardait comment les informations sur les algues vertes ont circulé dans la profession agricole, dans les médias et dans le monde scientifique. Donc voilà, donc moi c'était vraiment sur les relations entre habitants et agriculture.
Ah oui, le projet n'est pas fini, le projet PhilAV est toujours en cours en fait.
Oui, c'est un projet toujours en cours.
D'accord, et en ce qui concerne donc les relations entre population et agriculture, pourquoi ces deux bassins avaient été choisis, Blavet et Baie de Douarnenez?
Alors la baie de Douarnenez, parce qu'il y a beaucoup de recherches actuellement en cours, donc avec un autre projet qui s'appelle Green Seas, donc sur la baie de Douarnenez, sur cette même thématique entre bassin versant, agriculture et prolifération d'algues, et parce que du coup il y a beaucoup de partenariats en cours qui permettent à la recherche d'avancer plus vite. C'est aussi un territoire qui a été labellisé comme une baie algue verte depuis les années 2010, donc dans lequel il y a des actions étatiques depuis longtemps, qui est souvent médiatisée comme telle, et donc où le sujet il est présent. Donc ça c'est pour le premier territoire. C'est aussi un bassin versant qui est très orienté vers la mer, qui entoure la baie de Douarnenez comme son nom l'indique. Et le Blavet, un peu au contraire, c'est un bassin versant donc qui s'échelonne des côtes d'Armor, du sud des côtes d'Armor Ostrenin jusqu'au sud du Morbihan, et donc qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus grand, où il y a des algues vertes à l'embouchure, mais où le sujet n'est pas du tout présent aussi de manière aussi importante.
Est-ce qu'elles ne sont pas toujours visibles, les algues vertes, c'est ça?
Sur le Blavet, elles se développent sur vasières, donc c'est un peu différent que sur une baie sableuse comme la baie de Douarnenez, parce qu'on ne va pas dans une vasière comme on va sur une plage. Et c'est aussi donc dans la ville de Lorient, donc c'est plus intégré en fait à la ville. Et donc il y a plein de choses qui sont un peu différentes, elles ne sont pas forcément ramassées, parce qu'on ne va pas les ramasser sur vasières. Et ce que je veux dire, c'est que dans les deux territoires aussi, on a donc une présence agricole très forte, qui peut être différente à différents endroits du territoire. Il y a différentes pratiques, c'est un territoire où il y a plus d'agriculture extensive, plus intensive, différents types d'ateliers. Donc, en fait, il y a plein de choses qui, à la fois, les rapprochent et séparent ces deux territoires. Donc,
c'était intéressant de les comparer, quoi. Enfin,
c'est là que je voulais en venir quand j'ai eu cette hésitation. En fait, c'est que là, on n'a pas à ce stade comme objectif vraiment d'accord. De les comparer. Cette enquête, elle est vraiment à voir comme une pré-enquête. En fait, un outil test pour voir ce qu'un outil comme ça peut révéler des relations entre habitants et agriculture et pour voir comment il pourrait être utile de le déployer sur d'autres territoires, dans d'autres temps, dans d'autres espaces. Donc, c'est vraiment un projet pilote. Et donc, il y a des questions sur lesquelles c'est intéressant de comparer ces deux territoires, notamment les algues vertes, qu'on vient de voir que c'était différent dans les deux. Et il y a plein d'autres questions sur lesquelles ce n'est pas pertinent, et dans ce cas, on ne les compare pas.
Oui, puis c'est toujours intéressant aussi, de toute façon, indépendamment du sujet algues vertes, mais parce qu'il y a toujours des sondages qui sortent sur les gens et l'agriculture, mais là, c'est plus qu'un sondage, justement. Enfin, on va un peu plus profondément dans les perceptions de l'agriculture et des agricultures. Il faut peut-être rappeler ça aussi. C'est l'agriculture, c'est pas d'un bloc.
Non, alors clairement pas. Et d'ailleurs, ça ressort à plein d'endroits, du coup, des réponses des gens qui font des distinctions entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, entre ce qu'ils appellent l'agriculture et l'élevage. Certains me disent, je parle de ça, c'est pour l'agriculture, mais l'élevage, c'est pas pareil.
Ah ouais.
Comme si c'était deux entités complètement distinctes, entre les gens qui élèvent tel type d'animaux et les autres. Voilà. Donc il y a beaucoup de différences, mais aussi les légumes qui sont souvent mis à part. Et donc pourquoi cette enquête ? Parce qu'on entend très souvent parler des relations entre habitants et agriculture. Je dirais en premier lieu parce que la France est historiquement un pays agricole.
Oui. C'est
que récemment que la population française est en minorité agricole. Aujourd'hui, on a 2% d'agriculteurs à peu près en France.
Ouais, c'est très peu.
C'est très peu. Et donc, comment est-ce que cette population majoritairement devenue non agricole continue ou pas à entretenir des relations avec le monde agricole ? Et donc, on entend tout le temps parler dans les médias, dans les institutions, avec des idées reçues ou des choses qu'on pense savoir qui reviennent tout le temps. Et donc, nous, on voulait voir, quand on parle aux gens, qu'est-ce qu'ils disent vraiment ?
C'est ça.
Et voilà, c'est tout l'objet de cette enquête.
Et alors, il y avait quand même des difficultés à surmonter. Enfin, il fallait à la fois capter la complexité du sujet, il fallait éviter certains écueils aussi, c'est ça ? Quels étaient les points de vigilance avant même de commencer l'enquête ?
Alors, donc je viens de le dire, on entend souvent beaucoup de choses sur la relation entre habitants et agriculture, notamment sur une surcriticité de certains habitants. C'est un sujet...
Surcriticité, c'est
être
ça ?
Être plus critique.
Oui.
Dur. Surcriticité.
Ouais. Esprit critique renforcé, c'est ça.
Certains habitants seraient très critiques.
Ce qu'on appelle l'agribashing, c'est ça, ce que les médias appellent l'agribashing. Il y aurait beaucoup d'agribashing.
De la part d'habitants des villes, de la part des nouveaux habitants en zone rurale, de la part de gens qui ne connaissent rien à l'agriculture. Enfin, on retrouve toujours ces éléments de langage-là. Et donc j'ai perdu
Les complexes, enfin les écueils à éviter, quoi. Ouais.
Et donc on sait que c'est un sujet qui est sensible, les relations habitants-agriculture plus les relations habitants-agriculture-environnement. C'est un sujet qui est très controversé localement, d'autant plus quand on commence à parler d'algues vertes. Et donc il s'agissait vraiment de recueillir la parole des personnes sans l'influencer, ou en l'influençant un minimum. Des fois, c'est pas évident de trouver cette
mais exactement, c'est vraiment ça l'enjeu. Ouais.
Et donc, c'est une enquête qui a une vocation à être quantitative. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est voir s'il y a des corrélations, avec des tests statistiques, voir si tel type de personne répond plus ça ou ça.
Donc il en faut suffisamment, quoi.
Il en faut suffisamment. Ouais. Donc nous, on avait 200 répondants par territoire comme objectif. On en a un petit peu plus finalement. Ce qui est un peu un minimum en fait pour pouvoir commencer à dire des choses en statistique. Malgré tout, c'est aller chercher les réponses de 200 personnes, c'est un défi.
Oui, parce que c'est des réponses, un peu longues. Enfin, on va en rediscuter,
C'est des réponses un petit peu longues. Et donc, il y a vraiment cet enjeu de recueillir la parole des personnes. Donc, la tentation, c'est de faire des réponses fermées où on répond...
Pensez-vous que les agriculteurs sont responsables des algues vertes ou un truc du genre, quoi.
Alors, ça, c'est typiquement
ça, le genre
de question. Non, qu'on évite un maximum, parce que dans ce type de questions, en fait, on oblige la personne à réfléchir selon notre propre cadre.
Ah ouais.
On appelle ça l'imposition de problématique. C'est-à-dire que, en fait, déjà, on fait un lien, nous, entre agriculteurs et algues vertes.
Quand même.
Ce qui n'est pas forcément évident.
Dans la
façon dont on pose la question. Ouais. Et en plus, la réponse oui-non, en fait, naturellement, on a tendance à répondre plus oui que non, parce qu'on se dit que si on nous pose la question, c'est sans doute que c'est oui.
Ah ouais.
Donc
on ne pose pas la question comme ça.
On ne pose pas la question comme ça. Et même, en fait, dans une ferme un tout petit peu plus ouverte, en fait, si on avait des... ce qu'on voit beaucoup dans les sondages, pensez-vous que l'agriculture est responsable des algues vertes ? Oui, un peu, oui, beaucoup. Même si on avait plus d'options, en fait, ça reste une question qui est très orientée.
Bien sûr.
Donc, on a des questions fermées parce qu'elles sont des fois elles sont nécessaires et ça simplifie beaucoup le traitement.
Oui. Mais on a du aussi, style, enfin, c'est quoi ?
Habitez-vous en ville, dans un beau rural ou à la campagne ?
Ok. Bon, ça s'entend. Ouais.
Ça, c'est, voilà. Des questions comme ça. Connaissez-vous un agriculteur, une agricultrice ou une agricultrice, oui, non ? Et on a aussi beaucoup de questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question où la personne formule ses idées telles qu'elle les formule. Et donc, nous, on recueillait cette réponse.
Et alors, ça pourrait être quoi, un exemple de question ouverte, par exemple ?
Comment décririez-vous l'agriculture sur le territoire que vous habitez ?
Voilà, ok. Donc, pour reprendre la... Bon, déjà, la durée de l'enquête, c'était un an à peu près, c'est ça ?
Moi, j'avais 14 mois pour la réaliser, donc pour la préparer. Donc dans la préparation, on a notamment des entretiens en amont avec des personnes du territoire.
Ouais. Donc il y avait une sorte de comité de pilotage avec qui on a fait le questionnaire, c'est ça ?
C'est plutôt des échanges en amont pour déjà avec donc des agriculteurs, agricultrices, des élus, des membres d'associations environnementales, j'oublie.
Des acteurs qui ne sont pas des habitants, quoi. Enfin,
voilà. C'est pour en fait, ouais. recueillir un peu quelles étaient les questions qu'il y a à se poser. Parce que l'idée, c'est d'abord que cette enquête, elle serve aux personnes qui sont souvent interrogées ou qui ont souvent à se positionner sur ces questions-là.
Ouais. Aide donc, à la décision, quoi.
Voilà, un okay. peu. Et aide à la compréhension, d'abord.
Aussi, ouais.
Et donc, il y a cette phase-là. Après, il y avait une phase, du coup, de préparation du questionnaire qu'on a fait, disons... du côté scientifique, pour maîtriser du coup la formulation des questions. On vient de voir que c'était important.
Pour la bête d'Ornenay, c'était par exemple avec l'EPAB, c'est ça, la préparation des questions ?
L'EPAB a été sollicité, tout comme des élus, tout comme les membres de la commission locale de l'eau de la bête d'Ornenay, et comme les agriculteurs.
D'accord. Donc, c'est préparé en combien de temps un questionnaire comme ça ? Enfin,
et donc, il y a cette première phase de préparation qui a duré, on va dire, 4 mois.
Et c'est le même questionnaire pour les deux territoires, pour le Blavet et la bête d'Ornenay ?
Oui, c'est les mêmes questionnaires. Donc, il y a une première phase de préparation qui a duré 4 mois. Ensuite, on a monté Donc, j'inclus là-dedans la rédaction du questionnaire et son test. Tester, voir, du coup, une fois qu'on a formulé les questions, est-ce qu'elles sont comprises par les personnes ?
Ouais.
Est-ce qu'on sent qu'on les oblige à répondre selon un cadrage précis ? Dans ce cas, on change la question. Donc, des tests comme ça. Puis, un mois d'enquête.
Donc là, on va voir les gens. Toc, toc, toc. Comment on fait, ouais.
Exclusivement en face à face. C'est-à-dire qu'on n'a pas diffusé les questionnaires. Parce que vu que je disais tout à l'heure que c'est un test, en fait, l'enjeu, c'était de voir quelles étaient les réactions des personnes. Et aussi d'essayer d'aller voir au maximum une diversité de répondants. On sait que quand on met un questionnaire en mairie, par exemple, on n'a pas la même diversité de répondants que quand on fait le pied de grue devant un supermarché pendant une journée.
C'était ça. Alors, c'était plutôt le supermarché, marché, enfin...
des bars, notamment dans les communes rurales.
Parce que pour le Blavet, c'était plutôt le centre. Finalement, c'est plutôt le centre Bretagne qui a été choisi pour enquêter. Ou vous avez, parce qu'il y a 130 communes, c'est ça dans le.
Ouais.
Vous avez réussi à enquêter toutes les communes ? Non, enfin, c'était pas possible. Quoi.
Alors dans la stratégie d'échantillonnage, donc la façon dont on échantillonne du coup les personnes qui nous répondent, en fait, on a choisi de représenter le territoire dans sa diversité plutôt que dans sa démographie. Donc, si on prend l'exemple du Blavet, il y a à peu près 50% de la population qui vit sur l'Orient agglomération. Et étant donné qu'on fait une enquête sur les relations à l'agriculture, ça ne nous paraissait pas pertinent d'avoir 50% d'échantillons sur l'Orient agglo. Donc, on a plutôt essayé d'aller partout. Mmh. Alors, plutôt avoir des répondantes partout. Et donc, des fois, on se positionnait notamment à proximité dans les supermarchés qui sont un peu à l'extérieur des grandes villes. On disait que ça allait rayonner autour et avoir des répondants des communes autour. Donc ça, c'était un peu dans la stratégie, mais donc qui était un peu ajusté au fil de l'eau. Et du coup, après avoir du coup une expérience de 400 répondants, je peux dire qu'on a eu une diversité de personnes.
Oui, c'est pas mal.
De discours, par exemple, à la sortie du supermarché, on interrogeait aussi bien les personnes qui rentraient et qui sortaient, ou les personnes qui faisaient la manche devant.
Étiez combien d'ailleurs à interroger vraiment devant les supermarchés ?
Au tout, sur les 4 semaines de l'enquête, on était 3.
Oui.
Donc moi et 2 stagiaires que je remercie au passage.
On les remercie.
qui ont fait du super travail. Donc on était 3 enquêtrices pas toujours au même endroit, enfin souvent pas au même endroit, à se répartir en différentes zones. Et on avait comme objectif d'avoir 9 réponses par jour.
Mm-hmm. Ben oui, donc ça fait, parce que chaque questionnaire demande un petit temps quand même, évidemment. C'est ça, combien de temps à peu près par personne
Entre 6 et 45 minutes, avec une moyenne à 18. Donc c'est très, 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 très variable.
Les gens étaient gentils quand même ?
Tous.
Bon, super. On les remercie.
Non, mais vraiment, on remercie tous les gens qui nous ont répondu. Et puis, globalement, les gens sont gentils, si on peut le dire.
Et donc, c'était évidemment une version papier de ce questionnaire ou c'était quand même... vous aviez des tablettes, par exemple, pour gagner du temps
On essaie au maximum de recueillir les réponses donc en live. Hein, en
fait, ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais.
Donc, soit sur tablette, prioritairement, mais ce n'est pas toujours facile de poser une tablette, rien que ça. Soit sur téléphone, soit sur papier quand les conditions ne permettaient pas d'utiliser un outil numérique.
Oui. Et alors, un mois de questionnaire et ensuite le traitement des données. Alors, comment est-ce que vous traitiez au fur et à mesure d'ailleurs, comment est-ce qu'on traite ce type de données qui sont à la fois des données quantitatives et quand même du qualitatif dedans, des discours produits par les gens.
Disons, au fur et à mesure, j'avais plutôt un traitement qui était un peu pour surveiller l'échantillonnage, donc d'identifier les endroits où on manquait de répondants, ou m'assurer qu'on avait bien différents types de répondants. Je précise juste au passage que dans le traitement des données, en fait, on n'a pas de vocation à parler pour l'ensemble des habitants du territoire. Parce que, étant donné la stratégie d'échantillonnage, on ne peut pas le prétendre. Moi, je ne parle que au nom des personnes qui... Enfin, non. Je parle que à partir des réponses des personnes qui m'ont répondu.
422 réponses.
Donc, voilà, 422 réponses. Et je me souviens.
Et donc, vous, Audeline Billon, comment est-ce que vous faites pour traiter les données sur une question, une question ouverte, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour traiter des données, pour faire du quantitatif quand même, quoi.
Et donc, une fois qu'on avait donc recueilli nos réponses, donc il y a toutes les questions fermées. Donc, c'est facile, en fait, on a un logiciel qui permet de dire quel pourcentage de personnes qui ont répondu à chaque modalité de réponse. Et donc, pour les questions ouvertes, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, la technique, c'est ce qu'on appelle une codification. Et donc, on lit chaque réponse une par une en essayant d'en extraire les thématiques. Et donc, au fur et à mesure, on crée en fait des groupes de réponses. Et donc, on passe comme ça les 422 réponses. Et après, on revient à la première pour s'assurer que la codification, elle est homogène sur toute la durée. Et donc, au fur et à mesure, il y a des catégories qui émergent ou qui disparaissent.
Ah ouais. Oui, parce qu'elles ont été citées qu'une fois, par exemple.
Oui, ou alors on les regroupe. Donc, l'enjeu, là, c'est à la fois d'être fidèle aux réponses, un maximum, mais à la fois d'avoir un nombre assez restreint de catégories pour pouvoir faire, du coup, nos tests statistiques, les fameux.
Oui, c'est ça. Et ça montre que le travail de chercheur, de chercheuse, c'est quand même beaucoup de boulot. Hein.
Faut pas croire. C'est des petits yeux qui piquent.
C'est ça. Et donc, on en arrive aux résultats, puisque c'est quand même ça qui... Même s'ils ne sont pas complètement tous publiés, c'est ça. Enfin, il y aura encore de la publication sur ces résultats.
Oui, alors je dirais même qu'ils ne sont même pas encore tous analysés. En fait, on avait une trentaine de questions ouvertes dans ce questionnaire. C'est des journées de travail pour chaque question, donc pour l'instant c'est juste un extrait choisi, mais un extrait quand même de ces résultats.
Alors allons-y, qu'est-ce qui ressort de ces enquêtes, de cette enquête ?
De cette enquête, alors donc là j'ai choisi de vous parler de deux choses. Le premier résultat du coup que je voulais vous présenter, c'était sur le lien entre néo-ruralité et critique de l'agriculture, puisqu'on entend souvent parler.
Ouais, on dit les néo-ruraux et critiquent tout le temps les agriculteurs.
Les néo-ruraux sont très critiques et ça va mieux au bout de quelques années quand ils comprennent ce qu'on fait. Enfin, là, je cite du coup la part d'un agriculteur qui m'a donné ce témoignage, mais qui comprennent ce qu'on fait. Là, ça va mieux, mais les premières années, c'est compliqué. Et c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup, même dans les institutions. Petite parenthèse, mais là, dans le Finistère, il y a une charte maintenant à signer pour tous les nouveaux installés en zone rurale pour le bon voisinage. Donc, voilà, c'est encore derrière cette image d'un néo-rural qui serait critique de l'agriculture.
Et un néo-rural, c'est moins de 5 ans. Hein. C'était la définition que vous avez choisie, en tout cas.
Ouais, ouais. C'est la définition qu'on a choisie. Donc, quelqu'un qui habite en zone rurale depuis moins de 5 ans. Parce que faut bien mettre une limite, mais aussi parce que cette idée d'une acculturation progressive du coup, à son territoire. Donc, 5 ans, c'est la limite qu'on a choisie. Et donc, comment on a fait pour répondre à cette question ? Les néo-ruraux sont-ils plus critiques que les autres ? Donc d'abord, on sait depuis combien de temps les gens habitent sur le territoire, on leur a demandé, on sait s'ils habitent en zone rurale ou non. Et il y a une question qu'on a analysée, c'est comment décririez-vous les effets sur l'environnement de l'activité agricole sur ce territoire ? Donc c'est une question qui est très orientée sur l'environnement. Il y a beaucoup d'autres questions dans le questionnaire qui sont beaucoup moins, bien sûr. Et donc cette question, elle arrive à la toute fin du questionnaire. Et donc cette question-là, on l'a codée, donc toujours la codification en quatre dimensions différentes. Est-ce que les personnes, elles partagent une appréciation critique de ces effets ? Ou est-ce qu'elles font une différence entre agriculture biologique et conventionnelle ? Dans ce cas, je les ai classées dans la critique de l'agriculture majoritaire. Est-ce que ces personnes, elles relativisent les effets de l'agriculture, donc elles disent que ces effets sont négatifs, mais tout comme d'autres activités humaines, par exemple, ou alors qu'ils sont nécessaires pour pouvoir maintenir une agriculture locale? Est-ce qu'elles ne savent pas? Parce qu'un cinquième des personnes qui se disent ne sait pas cette question. Et enfin, est-ce qu'elles soutiennent, en fait, l'agriculture de manière, du territoire de manière indifférenciée en disant que ces effets sont positifs? Et donc, à cette question, on voit qu'il y a à peu près 50% des personnes qui partagent un contenu critique.
D'accord.
Une appréciation critique.
Quelle qu'elle soit, les personnes, quel que soit leur statut, néo-ruraux, pas néo-ruraux.
Bête d'ornonnée ou blavée. Donc ça, c'est 50%,
ah oui, quand même.
Des, 50%
ouais, ouais,
des personnes. Mmh. Donc une toute petite, enfin 52 je crois, une toute petite majorité. Mais l'ensemble des pourcentages là, de 4 catégories ne s'additionnent pas jusqu'à 100 parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui disent plusieurs choses en fait.
Eh oui, eh oui. Qui ont plusieurs postures.
Eh oui, c'est
possible, les gens sont complexes.
C'est jamais simple. Donc on a une petite majorité de personnes critiques et parmi cette majorité-là, en fait on croise les différentes catégories avec leur profil néo-rural ou non.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ce qu'on observe, c'est que les néo-ruraux, en très grande majorité, on les retrouve dans la catégorie ne sait pas. C'est les personnes qui ne se prononcent pas.
C'est ça. Ils restent modestes, en fait. Quoi.
Alors, soit.
j'ai pas assez d'expérience, je ne me prononce pas.
Moi, je ne peux pas dire pourquoi, là, juste avec cette question, ils ne se prononcent pas. Soit c'est parce qu'ils savent que c'est un sujet sensible, et du coup, ils préfèrent rester en arrière. Soit parce que, en effet, c'est de la pure modestie, je ne sais pas, donc je ne prononce pas. Voilà, moi, je ne peux pas aller jusque-là, mais en tout cas, je peux voir.
C'est un constat.
Très clairement que les personnes habitant depuis peu en zone rurale sont celles qui ne se prononcent pas sur cette question. Et les personnes critiques, donc il y en a, mais c'est principalement des personnes qui habitent sur le territoire depuis plus de 5 ans et qui, par ailleurs, adhèrent à une association environnementale ou sont préoccupées, inquiètes par l'agriculture.
Et qui n'ont pas, pas forcément de la famille, justement, dans l'agriculture aussi ou... Est-ce que c'était discriminant, le fait d'avoir de la famille dans l'agriculture? Est-ce que ça rend plus ou moins critique, justement?
Alors ça, c'est un peu en creux. Ce qu'on regarde, c'est quelles sont les variables avec lesquelles ce n'est pas corrélé. Et dans ce cas, le fait d'avoir grandi en ville ou en campagne, ça n'est pas corrélé. Le fait d'habiter en ville ou en campagne, ce n'est pas corrélé. Ou le fait de connaître ou non un agriculteur ou une agricultrice, ce n'est pas corrélé.
Ah ouais.
Après, moi, je ne suis pas allée jusque... Avez-vous de la... Enfin, je n'ai pas une question spécifique sur la famille. D'accord. Donc, je ne peux pas répondre sur la famille. Mais le fait de connaître quelqu'un qui travaille en agriculture n'est pas corrélé avec le fait d'être critique ou non.
Mmh. Et alors, ceux qui, à l'inverse, sont non seulement pas critiques, mais qui soutiennent que l'agriculture a un effet positif sur l'environnement, c'est qui sont-ils ou elles?
C'est des personnes qui habitent sur le territoire. Après, toujours pareil. Hein. Moi, je parle là dans la masse. Donc, il y a toujours des profils qui divergent en fait, de cette masse. Mais dans la masse qu'on observe, c'est que c'est des personnes qui habitent sur le territoire depuis très longtemps, enfin, depuis qu'elles sont nées. Donc, soit c'est des personnes très, très jeunes qui habitent encore chez leurs parents. Soit c'est des personnes, au contraire, très âgées qui n'ont pas bougé. Et des personnes qui ont un lien très fort avec un agriculteur. Par exemple, qui se sentent concernées par l'agriculture parce qu'elles sont soit elles-mêmes agriculteurs et agricultrices,
oui, aussi, oui.
Soit ont des proches en agriculture. Donc ça, c'est encore une fois dans la masse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, du coup, d'être proche d'agriculteurs ou d'agriculture dans son territoire, ce n'est pas lié au fait d'être critique ou non. C'est plutôt ici lié au fait de prendre position. Les personnes qui ne prennent pas position, c'est les personnes qui sont plutôt éloignées de l'agriculture.
D'accord.
Contrairement à ce qu'on entend souvent.
Et il y a pas, l'âge, par exemple, n'est pas discriminant. Il n'y a pas un effet de génération. Les vieux qui seraient plus conservateurs et moins critiques. Il n'y a pas ça.
Non, pas du tout.
Ouais, ça, c'est intéressant aussi de constater ça. Et bon, je sais que ce n'était pas forcément l'objectif de comparer, mais est-ce qu'il n'y a pas de différence entre Bête d'Ornonnée et bassin versant du Blavet?
Non, là-dessus, il n'y a pas de différence. Ouais. Non.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui reste? Enfin, dans les résultats, c'est bon, on a tout dit, ou il y avait autre chose à souligner?
Il y a un autre résultat, donc je vois que le temps file, hein, mais que je peux évoquer rapidement. C'est évoque-t-on les algues vertes
spontanément.
Spontanément, ouais. Parce qu'à aucun moment dans le questionnaire, nous, on les évoque. C'est juste, il y a plein de questions ouvertes qui permettent aux répondants de le faire, mais on l'oblige jamais. Et donc, je voulais mentionner que 45% des personnes dans la baie de Douarnenez les mentionnent spontanément à un endroit. C'est 23% dans Blavet, donc quasiment deux fois moins.
Ouais.
Donc, une grosse différence territoriale ici. Mais quand on rentre un petit peu plus dans le détail, même à l'échelle de la baie de Douarnenez, il y a une très grande hétérogénéité, une très grande différence entre les mentions des algues vertes en fonction de l'endroit dont on habite dans la baie. Donc, par exemple, on va mentionner plus de deux fois plus Il y a deux fois plus de personnes qui mentionnent les algues vertes dans la ville de Douarnenez qu'à Crozon. Donc ça fait une différence assez importante. Et dans le fond de la baie, donc territoire très agricole du Porzé, c'est 57% des personnes qui les mentionnent.
Ouais.
Donc plus que la moyenne du territoire finalement. Et ça, par contre, ça ne dit pas comment les personnes les mentionnent.
Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est la question. Elles les mentionnent en bien, en moins bien.
Bah voilà, est-ce qu'elles les mentionnent en disant que l'agriculture est responsable, que l'agriculture n'est pas responsable, que c'est une dégradation sur l'environnement ou pas. Donc ça, c'est encore une analyse. Mais si je peux dire rapidement que personne n'identifie les agriculteurs, donc en tant que personne, comme responsables de ces proliférations. C'est que quand l'agriculture est pointée du doigt, c'est plutôt le système agricole ou les orientations agricoles du territoire, voire au niveau européen. Mais c'est jamais les agriculteurs qui sont mentionnés. Et il y a à peu près un cinquième des personnes même qui mentionnent explicitement que les agriculteurs ne sont pas responsables.
Que c'est le tourisme, les stations d'épuration mal calibrées.
Ou le système agricole, la course au moins cher, le fait de devoir se rémunérer, bien sûr.
D'accord.
Donc voilà, mais jamais les personnes en tant que telles, et ça, je serais important de le préciser, parce que ça fait partie des relations entre habitants et agriculture.
Ça paraît normal en même temps. Eh bien voilà, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Audely Billon. Il y a un endroit où on peut lire les résultats
Pas encore.
Bon, non. On le mettra quand ce sera. Et en attendant, on peut réécouter ce podcast sur le site de la radio. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à tous et toutes de votre écoute. À bientôt.